Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous lisez la presse ou les sites déco, impossible d'être passé à côté de Fanny Solet et Olivia Defayette, les pétillantes fondatrices de Willow & Grove, une galerie d'art nouvelle génération. Si vous ne les connaissez pas encore, je suis ravie de vous les faire découvrir car leur concept est top. D'abord, un site internet sur lequel choper des œuvres d'art, tableaux, sculptures, photos, collages, objets, entre 50 et 5000 euros maximum avec toutes les infos qui vont bien. Ensuite, une galerie accueillante comme un grand appartement cosy où chaque œuvre est mise en situation pour mieux les appréhender. Fanny et Olivia sont là pour nous prouver que le monde de l'art n'est pas si étroit et conceptuel que l'on pourrait penser et que plutôt que de s'acheter une cinquième paire de baskets, on ferait peut-être aussi bien d'investir dans un bel objet qui reste. Bonjour Fanny, bonjour Olivia.
Bonjour Hortense.
Bonjour Hortense.
Alors vous me recevez au We Loft, ce grand appartement galerie dont je viens de parler, merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu et nous dire à quoi il sert ?
Oui, alors ce lieu, c'est un ancien appartement dont on a gardé la disposition en appart avec donc une grande pièce sous verrière qui est un peu la pièce de vie, salon, cuisine, salle à manger, une chambre et une salle de bain et un petit coin bibliothèque. Et en fait, on a donc complètement aménagé cet espace avec les œuvres de la galerie pour recevoir nos clients sur rendez-vous dans un environnement, comme tu l'as dit, qu'on veut vraiment cosy, où les œuvres se mélangent, se répondent et donc ça nous sert finalement de showroom un petit peu différent puisque on tient à ce côté maison qui tient vraiment à cœur.
Comment vous avez choisi le lieu ?
Eh bien, déjà pour la petite info, c'était autrefois une imprimerie de partitions de musique qui a été transformée en habitation dans les années 80 et Fanny a habité là pendant 7 ans. Donc au début, on a cohabité entre Fanny, son mari, son chien et la galerie, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même agréable de pouvoir recevoir les clients hors des pop-up qu'on fait toute l'année. Et du coup, après, ils ont déménagé il y a un an et on a gardé l'espace pour faire la galerie.
Donc la galerie, une galerie pensée comme un appartement, quelle est l'idée ? C'est une façon de mettre à l'aise le client ?
Donc l'idée de présenter les œuvres comme dans un appartement, c'est donc en priorité pour mettre les gens à l'aise. Notre gros challenge avec Willow & Grove, c'est vraiment d'aborder la galerie d'art différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les galeries. Donc le côté accueillant, chaleureux, cosy, c'est vraiment primordial pour nous. Donc évidemment, le côté maison aide à ce niveau-là. Ça aide aussi beaucoup les gens à se projeter dans quelque chose qui peut se rapprocher de leurs propres intérieurs, puisqu'on a donc tous une chambre, un salon, etc. Donc ça permet vraiment de s'imaginer ce que ça pourrait rendre chez soi. Et après, nous, notre idée aussi, c'est vraiment de créer des mélanges d'artistes, effectivement, comme on pourrait faire dans un vrai intérieur, c'est-à-dire que généralement, chez soi, on a rarement 10 œuvres d'un artiste ou 10 pièces de mobilier du même designer. Donc au contraire, on mélange souvent les choses qu'on nous a offert, des choses dont on a hérité, je sais pas, de ses parents, de sa grand-mère, des choses qu'on s'est achetées soi-même, et donc forcément différents styles, différentes époques et différents potentiellement artistes si on a déjà des œuvres d'art. Donc du coup, l'idée de la maison, c'est vraiment de reproduire ce mélange-là, ce qui nous permet nous de faire converser, on va dire, nos 40 artistes en les mélangeant et en montrant aussi à quel point on peut mélanger des choses très différentes et les faire fonctionner ensemble, ce qui est aussi un frein parfois qui peut bloquer les gens qui sont un peu nouveaux dans ce domaine, qui n'ont pas forcément l'habitude d'acheter des œuvres d'art. Donc aussi de leur dire, lâchez-vous, vous voyez comme on peut aller loin dans les mélanges. Et ça, le contexte de l'appartement se permet cette liberté-là.
Il y a quelqu'un pour expliquer ? C'est vous qui êtes là ?
Oui, on reçoit, nous, les clients sur rendez-vous toute la semaine au We Loft, donc du lundi au vendredi. Et on est toujours là, ou l'une ou l'autre, ou toutes les deux, pour accueillir les clients, parce que c'est ça qui est aussi important pour nous dans ce système de WeLoft avec une prise de rendez-vous. C'est-à-dire que le client, il a une heure pour lui. On est là complètement consacré à sa personne. Donc souvent, il arrive avec un projet, c'est-à-dire j'ai tel budget pour un cadeau ou je voudrais enfin craquer pour ma première œuvre d'art au-dessus de mon canapé. Mon mur est blanc depuis 3 ans que j'ai emménagé. Et du coup, nous, on arrive là aussi en conseil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déjà montrer sur ordinateur toutes les choses qu'on a, parce que toutes les choses sont stockées ici. On fait le tour de l'appartement, on explique chaque artiste, la technique, le message éventuellement, etc. Et il nous montre parfois des photos de son appartement, le client, et on l'aide vraiment à aller au bout de sa démarche. On explique aussi les prix. C'est très important aussi pour nous. Les prix sont toujours affichés, toujours fixes. Donc souvent, c'est un vrai questionnement pour les clients quand ils vont dans des galeries. Ils savent pas tellement quel est le juste prix, etc. Donc du coup, voilà, on arrive. C'est important que nous, on soit là pour avoir un vrai accompagnement. Et c'est comme la sélection est faite aussi par coup de cœur toutes les deux. C'est vraiment important qu'on puisse l'expliquer aux clients.
Pourquoi dans les galeries, justement, les prix sont pas forcément affichés? Pourquoi il y a une froideur dans les galeries parfois?
Mais c'est un peu ce qu'on se demande, nous. C'est en tout cas, c'est quelque chose qui nous pouvait nous déranger, ou en tout cas nous, en tant que clients, nous surprendre et nous mettre un peu mal à l'aise. Après, donc nous, faut savoir qu'on a, avant de lancer notre galerie, on a été chez Christie's pendant une petite dizaine d'années, donc on était plutôt à l'aise dans cet univers qui a été le nôtre pendant longtemps, même si c'est une maison de vente aux enchères, c'est pas la même chose qu'une galerie, mais ça reste quand même un monde commun. Et du coup, la conclusion au bout de 10 ans, c'était que nous, on se sentait encore mal à l'aise quand on rentrait dans une galerie traditionnelle. Donc on s'est dit, mais si c'est ça, comment quelqu'un qui n'est pas familier peut se sentir le courage de pousser la porte d'une galerie, quoi? Donc ça nous a vraiment frappé à ce niveau-là. Après, pourquoi c'est comme ça encore aujourd'hui? Ça vient sans doute de loin. Il y a eu toute cette mode à un moment qui est apparue des galeries qu'on appelle White Cube, donc le côté cube blanc, comme son nom l'indique, donc vraiment les murs très très épurés, des grands spots, une œuvre vraiment mise en majesté. Donc c'est une espèce de sacralisation de l'art à un niveau tel que finalement, voilà, il y a une sorte d'effet de revers par rapport à ça qui fait que ça met une distance énorme avec le public. Et en fait, je pense que c'est un peu une dérive de cette mode-là qui s'est répandue en fait un peu partout dans les galeries, et du coup qui crée, voilà, vraiment un contexte qui est pas chaleureux, pas accueillant dans la plupart des cas. Alors après, nous, le but, c'est pas de dresser un procès du marché de l'art, mais c'est simplement de se dire, nous, on le ressent comme ça. Tous les retours qu'on a, enfin beaucoup de retours qu'on a de nos clients aujourd'hui, qui sont en fait pour la vaste majorité des nouveaux clients de ce marché, on va dire. On essaie vraiment de s'adresser à des personnes qui sont pas du tout initiées et de leur dire, voilà un endroit où peut-être on espère vous sentir à l'aise et découvrir ce plaisir que c'est d'acheter une œuvre d'art. 99% de ces gens-là nous disent, spontanément, je ne peux pas rentrer dans une galerie normalement. Je me surprends moi-même à venir chez vous aujourd'hui parce que pour moi, c'était inimaginable. Donc ça, c'est la plus grosse satisfaction, parce que c'est pas un mythe, en fait. C'est, en tout cas, nous, on le ressent très fort de la bouche des gens qui viennent nous voir, cette froideur qui est perçue. Et donc, d'où vient-elle et pourquoi, c'est un mystère, mais en tout cas, elle est bien là.
Est-ce qu'il n'y a pas une notion de prix aussi qui peut faire peur? Vous, ça va jusqu'à 5000 euros, donc en fait, ça peut être accessible pour des œuvres d'art. Comment les prix sont fixés? Comment ils se justifient?
Eh bien, nous, déjà, on a une politique très transparente, dans le sens où on fixe tous nos prix avec les artistes. Après, comment on fixe le prix? Ça dépend déjà de l'historique de l'artiste. Est-ce qu'il a déjà vendu et à quel prix? À partir du moment où il a déjà vendu certaines œuvres à tel format, à tel prix, ça veut dire qu'il y a un marché. C'est-à-dire que les gens sont prêts à mettre ce prix-là pour ses œuvres. Donc, nous, on respecte aussi l'historique des ventes de l'artiste. Il y a aussi, évidemment, une question de poids et de taille, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que, il y a la taille de l'œuvre, la technique. Il y a une espèce de classement officiel, entre guillemets, des techniques. Par exemple, une huile sur toile, donc un tableau, est plus noble qu'une œuvre sur papier, qu'une peinture sur papier, par exemple, et qui est plus noble, entre guillemets, qu'un crayon sur papier. Donc, déjà, c'est évident qu'une huile sur toile sera plus chère qu'un dessin sur papier.
Ça, c'est vraiment une règle, enfin, voilà, du marché de l'art qui s'applique dans toutes les maisons de vente. C'est historiquement, et c'est aussi, sans doute, ça vient d'une question bête et méchante
du matériel
utilisé. Donc, mais du coup, ça crée quand même une sorte de, déjà, d'échelle de valeur assez objective, on va dire. Après, il y a aussi, évidemment, le temps de travail de l'artiste, la complexité de sa technique. Donc ça, c'est tout ça, c'est des choses qui sont assez mesurables, en fait, sur lesquelles on s'appuie.
Et on fait aussi attention, nous, par rapport aux artistes qu'on a, qu'il y a une vraie cohérence de prix, que même si chaque artiste est différent, a une technique différente, qu'on sente qu'on est dans un environnement où il y a une logique quand même de prix. Et comme je vous disais, on les fixe avec les artistes, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'on trouve le prix juste pour l'artiste, pour nous, parce qu'il faut qu'on se nourrisse, et pour le client final aussi, qu'il ait une perception juste de ce prix-là. Et à partir de ce moment où on fixe le prix avec l'artiste, on s'y tient, donc il est affiché non négociable. Et c'est le même dans la galerie, pop-up, ici au WeLoft ou sur le site. Et évidemment, on essaye de le défendre, et on est capable de le défendre, et on veut défendre ce prix, et aussi parce qu'on ne veut pas que les clients pensent que... si on est bon négociateur, eh ben, on peut avoir un meilleur prix que le voisin. Enfin, on veut vraiment qu'il y ait une vraie équité, une vraie transparence. Et c'est très important pour nous parce qu'on voyait bien justement la barrière qu'ils peuvent éprouver lorsqu'ils vont dans une galerie traditionnelle et que c'est pris sur demande. Et que là, on se dit, mais je vais me faire avoir. Peut-être que ça fait 2 ans que le galeriste a le tableau. Donc du coup, il me dit, je vous fais 40%. Mais en fait, il aurait fait 70% au voisin. Enfin, donc c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on se dit galerie nouvelle génération. C'est qu'il y a beaucoup de codes qu'on essaye de briser, en tout cas de faire différemment pour s'adresser à un public qui est différent.
Vous voulez rendre l'art plus accessible. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez l'impression de participer à ça? Ça marche?
Oui, on est hyper contente. Bah, surtout, ce qui nous fait le plus plaisir aujourd'hui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté de c'est toutes ces personnes qui viennent et qui disent c'est la première fois de ma vie que je rentre dans une galerie et du coup, c'est hyper excitant parce que je le fais vraiment parce que je sens que c'est différent. Et donc ça, c'est un pas que les gens franchissent qui est pour nous hyper... C'est vraiment une fierté, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre public à 80%, c'est exactement celui qu'on s'était imaginé, c'est-à-dire des gens comme nous, en fait, qui certes, restent quand même privilégiés parce que tout le monde n'a malheureusement pas les moyens de s'acheter. Enfin, une œuvre d'art, c'est quelque chose qu'on s'achète quand on a déjà pu s'acheter tout le reste. Donc, évidemment, c'est un privilège. Mais parmi tous ces gens qui, avant, auraient pu se le permettre et ne le faisaient pas, du coup, de voir qu'aujourd'hui, c'est des jeunes, plus jeunes, qui n'avaient jamais osé, justement, faire ce pas et qui se lancent dans le premier achat, c'est eux, aujourd'hui, nos clients. Et ça, c'est un peu quelque chose qu'on a créé finalement, en tout cas, enfin, on avait identifié un peu ce manque entre des artistes hyper talentueux qui faisaient des choses tout à fait abordables et qui galéraient à se faire connaître et des gens qui s'intéressaient de plus en plus à leurs intérieurs, comme on le voit partout en fait. C'est vraiment une tendance aussi aujourd'hui, les gens apportent du soin, on a envie de se sentir bien chez soi, on a envie que ce soit différent aussi de chez quelqu'un d'autre. Du coup, il y avait cette envie-là, et en fait, à un moment, rien entre les deux, quoi. Donc, c'est là que, on a vraiment l'impression d'avoir, en tout cas, à notre petite échelle, contribué à un peu combler ce manque-là. Et ça, c'est hyper, hyper chouette.
Du coup, les gens investissent peut-être de plus en plus dans le monde de l'art. Qu'est-ce que ça dit de notre société, entre guillemets? On a envie d'objets plus pérennes. C'est rassurant, ça?
Oui, c'est vrai que nous, on n'y avait pas forcément pensé au moment où on a monté Willow & Grove, mais il y a vraiment toute une partie presque écolo, en fait, dans cette démarche qu'on propose, dans le sens où, en effet, personne ne jette une œuvre d'art. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez choisir un tableau ou une sculpture pour chez vous, c'est un acte déjà de longue durée, parce que vous allez vouloir le garder longtemps, le déménager avec, le transmettre à vos enfants ou le donner à quelqu'un à un moment pour faire tourner, etc. Mais c'est vraiment dans l'idée, je pense, d'acheter peut-être moins de choses de déco dont on se lasse, etc., mais d'acheter mieux, du coup. Donc, ce qui est un peu la mouvance actuelle sur tellement de sujets de consommation. Donc, c'est vrai que c'est une autre manière d'acheter.
On a aussi il peut y avoir deux peurs par rapport au monde de l'art. On peut avoir peur de ses propres goûts et on peut avoir peur du regard des autres. Parfois, on arrive chez quelqu'un, puis on se dit, on voit un énorme tableau dans le salon qu'on n'aime pas, donc on ne va pas aimer chez la personne. On peut avoir peur de ce regard-là aussi. Comment on peut faire évoluer ça ?
C'est vrai que nous, on essaye de vraiment encourager les gens à pas trop se soucier du regard des autres. Après, c'est bon, c'est évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'art, c'est vraiment une histoire de coup de cœur personnel. Il y a pas, justement, il y a aussi ce frein, comme tu disais, de parfois se dire j'y connais rien, je vais mal choisir, etc. Nous, on essaie vraiment d'encourager les gens à se dire ok, essayez de faire le vide, essayez de vous promener par exemple dans ce lieu où il y a énormément de choses différentes et de vous laisser porter par votre œil, parce qu'en fait tout le monde a son œil. Oui, ça s'exerce, on peut l'affiner avec le temps, affiner ses goûts, etc., mais on a tous des choses qu'on aime et qu'on aime pas. C'est comme chacun est capable de dire j'aime le jaune mais j'aime pas le bleu, enfin, et il faut aussi se faire confiance à ce niveau-là, parce que on a forcément des élans vers des choses. Et donc nous, voilà, on essaie aux gens, enfin, de dire aux gens, débarrassez-vous de vos peurs, et parce que ça doit être quelque chose de, voilà, de naturel, spontané. Pas la peine de pouvoir en parler pendant 3 heures. Nous, il y a plein d'œuvres dont on n'est pas capable de parler pendant 3 heures, et simplement on se dit, bah, quand on la voit, on a le coup de foudre, on tombe amoureux, et pas besoin de justifier non plus, quoi.
Ce qu'on dit, nous, toujours à nos clients, la phrase interdite, c'est j'y connais rien. Parce que la personne qui arrive en disant « moi, j'y connais rien », donc vraiment, mais en fait, vous avez des yeux, vous avez une âme, un cœur, enfin, vous avez une sensibilité, donc c'est vraiment l'émotion avant tout. Et c'est ça que nous, on a voulu faire aussi avec Willow & Grove, c'est remettre l'émotion au centre du débat et au centre de notre proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la cote, d'investir pour avoir un retour sur investissement quand on mise sur des artistes qui sont en train de monter, ou alors là, c'est extrêmement conceptuel, c'est l'idée derrière est géniale, etc. Mais c'est compliqué à mettre chez soi aussi. Donc c'était vraiment, nous, le mot-clé, c'est vraiment l'émotion.
Qu'est-ce qui se vend le mieux ? Quel type de produit ou un artiste ? Est-ce que vous arrivez à voir ça ?
Bah, on a, donc en fait, dans la présentation, tu as parlé du site et du WeLoft, mais donc on a aussi mentionné depuis le début de l'interview des pop-up. Et donc en fait, on fait des pop-up 2 fois par an dans d'autres lieux que le WeLoft, dans des adresses qui changent à chaque fois. Et du coup, c'est vrai qu'à ces occasions-là, comme c'est un peu les moments où on présente les nouveautés et où on est ouvert sans rendez-vous pendant un mois,
donc pop-up, c'est boutique éphémère.
Ouais, boutique éphémère. On prend des surfaces de entre 100 et 200 mètres carrés et on aménage comme dans un appartement aussi. Donc c'est assez similaire comme présentation à ce qu'on peut faire ici. On va assez loin dans l'aménagement. On apporte des petits bouquins, des coussins. Enfin, on essaie vraiment de cosifier à fond. Et on est pendant un mois dans une adresse où là, on est sur la rue, donc comme une boutique, ouvert 7 jours sur 7. Donc on essaye d'être vraiment aussi de faire le pendant à ce lieu où on se trouve aujourd'hui, le WeLoft, où c'est beaucoup plus personnalisé, mais du coup, il faut quand même prendre rendez-vous, c'est aussi toute une démarche. Donc on essaye aussi que ce soit complémentaire au moment des pop-up. Et donc ces moments-là, c'est les moments des nouveautés. Donc on présente de nouveaux artistes en général en 4-5, et les nouveautés des artistes avec lesquels on travaille déjà. Donc il y a un côté assez événementiel, et c'est vrai que ça nous donne beaucoup d'informations en fait, parce qu'à ce moment-là, on est très en contact avec beaucoup plus de monde, notamment les week-ends, etc. Et du coup, c'est vrai que là, souvent, on peut dégager des tendances un peu dans les artistes qui cartonnent, on va dire. Mais du coup, ce qui nous a vachement plu sur le dernier pop-up, là, qui était donc rue Bachaumont au mois de décembre, c'est que pour une fois, on n'a pas eu un artiste ou deux qui ont vraiment explosé et les autres qui marchaient bien. Enfin, pour donner une idée, on vend à peu près 200 pièces par pop-up, donc c'est énorme pour nous. Enfin, on est à chaque fois sur les fesses de ces résultats. Mais du coup, là, ça a tout aussi bien marché, c'est-à-dire qu'on a vendu tout autant de pièces, mais pour une fois, c'est vrai que c'était hyper réparti entre les artistes. Donc du coup, chacun... Alors après, il y avait quand même quelques plus feux d'artifice, mais ça nous a vraiment fait plaisir, bah déjà pour tous nos artistes, parce que voilà, évidemment on est proche d'eux, on défend vraiment tout leur travail à tous, donc c'était hyper hyper agréable de voir ça et que ce soit plus réparti. Donc il y a pas vraiment de stars, quoi. Et nous, notre but, c'est vraiment de se dire, on les choisit tous avec autant d'enthousiasme, donc en fait on a envie tous qui trouvent leur public. Après, c'est pas les mêmes
Comment vous les choisissez, les artistes? Quels sont vos critères de sélection? Est-ce qu'ils viennent vous solliciter ou c'est vous qui devez les dénicher?
Alors, c'est à double sens, dans le sens où déjà, on a un email, nous, spécial pour les artistes, talent@willow-grove.com, où là, chaque artiste peut candidater. Et nous, du coup, on regarde avec Fanny et on regarde leur site internet, leur compte Instagram, etc.
Que parfois on met un petit peu de temps à répondre. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous candidatez, on promet qu'on répondra parce que c'est vraiment important pour nous et on essaie, enfin on veut vraiment avoir ce respect du travail de tous, même quand ça correspond pas à notre univers et ça arrive évidemment. Mais voilà, du coup parfois un peu de patience, mais on répond toujours, c'est important.
Et sinon nous on fait des visites d'ateliers, des journées portes ouvertes, des foires, des salons, Instagram, internet, de bouche à oreille, c'est vraiment varié. On essaye de vraiment d'avoir des yeux ouverts sur plein de possibilités. Et la sélection, elle se fait avec Fanny. Donc toutes les deux, faut qu'on ait vraiment le coup de cœur pour l'artiste. Ça, c'est primordial. Et ça n'arrive pas souvent, en fait, dans le sens où il y a beaucoup d'artistes qui produisent beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se font, mais on tombe pas amoureux tous les jours. Et donc, du coup, pour que toutes les deux, on ait vraiment un coup de cœur, ça arrive, mais pas non plus tout le temps. Mais et il faut que ce soit, donc, ce coup de cœur, que ce soit ou une œuvre unique ou en petite édition, enfin, ou des œuvres uniques ou des éditions limitées, et que ça s'inscrive dans notre univers artistique, dans notre sélection, pour que ça corresponde bien avec nos artistes, sans que ça soit trop proche non plus. Donc c'est ça aussi le challenge.
Vous cherchez pas forcément des noms connus.
Non.
L'artiste inconnu ne vous fait pas peur. Vous pouvez proposer
nous,
le travail.
Ce ne sont que des artistes inconnus, entre guillemets. Ils sont connus de leur père, ils sont connus pour certaines personnes, etc. Mais c'est vraiment pas des noms, ni des cotes, ni etc. C'est ça, nous, ce qui nous amuse, c'est d'aller dénicher des gens qui ont un talent incroyable et qui, en même temps, personne n'a jamais mis la lumière dessus. Et du coup, c'est à nous de les faire connaître auprès de notre clientèle.
Ah, vous avez aussi un e-shop, on le disait tout à l'heure. Pourquoi faire les deux?
Pourquoi faire en physique et en ouais. digital, tu veux dire? Bah, parce que l'idée, c'était quand même, comme on disait tout à l'heure, de penser notre galerie pour aussi un public plus jeune. Donc aujourd'hui, enfin plus jeune que celui qui existe aujourd'hui, qui n'est vraiment pas jeune. Hein, pour voilà, chez Christie, c'est vrai que c'est on voit rarement quelqu'un de moins de 70 ans pousser la porte pour grossir un peu le trait. Donc du coup, bon, on essaye aussi de s'adresser un peu, en tout cas à notre génération. Donc évidemment, le digital avait sa place là-dedans. C'est aussi, on a la chance de travailler dans un secteur qui est hyper visuel. Donc en fait, pourquoi se priver de ces possibilités qu'offre le digital aussi, de faire des mises en scène et des belles images et de les montrer. C'est un super outil de préparation pour les gens, c'est-à-dire que beaucoup de gens font du repérage sur le site, se promènent, se perdent un peu dans les différentes sections et puis après se disent ok, j'ai repéré ça et ça, et donc soit au prochain pop-up, soit en prenant rendez-vous au WeLoft, j'irai voir les œuvres en vrai. Donc en fait, c'est vraiment complémentaire. Le physique, enfin le loft sur rendez-vous, les pop-up beaucoup plus open et accessibles à n'importe quel moment, et internet. Il y en a un peu pour toutes les sensibilités aussi dans la façon dont on a envie de rentrer dans cet univers-là. Et par contre, c'est vrai que c'était impossible pour nous de l'imaginer 100% digital. Et même au début, on pensait plutôt faire uniquement pop-up et site. Et c'est avec le temps, comme disait Olivia tout à l'heure, que le WeLoft s'est un peu imposé, parce qu'en fait, les gens ont besoin de voir. C'est, ben, encore une fois, c'est un coup de foudre. Il y a un truc qui se passe qui est un peu magique. Donc,
il y a un coup de cœur ou est-ce que les personnes viennent, reviennent, réfléchissent? Quel est le pourcentage de personnes qui achètent le jour même dans la galerie?
C'est assez élevé.
Ouais, ici, au WeLoft, pardon. Comme c'est sur rendez-vous, déjà les clients sont allés assez loin dans leur démarche. Ils ont réfléchi, ils ont pris rendez-vous, ils sont venus, donc ils sont assez prêts. Donc c'est vrai que, pour parler pas très joliment, mais le taux de transformation ici, il est plutôt de 80%, donc c'est ce qui est énorme. Après, pendant les pop-up, les gens, il y a pas mal de gens qui viennent pour opérer, qui passent, ils reviennent avec leur mari ou leur femme ou leur copain en fonction. Donc ça, c'est plus aléatoire dans les pop-up.
Mais après, c'est vrai que il y a quand même vraiment ce côté les coups de cœur se passent quand même souvent. Nous, on a presque 1000 œuvres en fait dans notre catalogue, si on veut dire. Et c'est vrai qu'ici, ou dans les pop-up d'ailleurs, on vient toujours avec. Il y a une partie qui est accrochée, donc ce qui est visible. Mais après, on a beaucoup de stock qui n'est pas montré en simultané, mais qu'on sort à la demande aussi. Donc le but, c'est de pouvoir vraiment accompagner, proposer aussi, être proactif en disant ok, quand on a fait le tour, on a vu qu'il y avait ça qui faisait tilt, donc mais on sait qu'ils cherchent un plus petit format, du coup on va peut-être sortir quelque chose qui est dans un placard. Enfin voilà, ça fait vraiment partie de. Donc c'est aussi des coups de cœur qui sont qu'on fait naître aussi quand on sent que c'est possible. Mais ceci dit, juste pour préciser, on essaie aussi d'encourager les gens à se dire c'est pas parce que vous n'êtes pas sûr d'acheter qu'il faut pas venir non plus. Parce qu'il y a aussi un peu ce frein sur le truc du rendez-vous. Les gens se disent, bon, bah, si j'y vais et que j'achète rien, ça va être un problème, etc. Et encore une fois, nous, c'est pas du tout notre philosophie. On a envie de faire découvrir ce lieu qui est quand même un peu hors du commun, de faire découvrir nos artistes. Donc voilà. N'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas encore prêt à passer le pas. C'est aussi pour l'expérience, prendre un contact, passer un bon moment. Et ça, c'est hyper important de le partager, quoi.
Et sur le site est vraiment bien fait. En plus, il y a un ton, il y a une ligne éditoriale. Tout est classé par prix, par artiste. Il y a des fiches détaillées avec plein de photos. On peut le voir en vrai, donc en prenant rendez-vous. On peut vous contacter même pour avoir plus d'infos sur une œuvre. Sur la fiche, vous donnez aussi quelques mots sur l'artiste. Vous expliquez pourquoi vous avez sélectionné cette œuvre. Vous donnez même des conseils pour l'utiliser, entre guillemets, au mieux. Est-ce que c'est cette notion de service qui fait de vous une galerie nouvelle génération, comme on dit, c'est important tout ça, c'est encore une fois, ça rassure le client.
C'est vrai que nous, on voulait simplifier toute cette démarche. Donc, on voulait de rendre ça le plus, pas encore redire accessible, mais le plus facile en tout cas. Donc, c'est vrai que comme nos clients, c'est parfois la première fois qu'ils achètent une œuvre d'art et qu'ils passent le pas, nous, on voulait que ce soit simple, qu'ils aient des informations assez clés. On essaie d'écrire des articles sur les artistes, donc tous les petits textes qu'on fait, ce que tu viens de dire, que ce soit pas un texte en télo. Enfin, on veut juste que raconter l'univers de l'artiste, raconter sa technique le plus simplement possible aussi, parce que si vous voulez qu'on vous explique la gravure de manière académique, c'est un enfer. Donc on voulait vraiment que ce soit des notions simples pour avoir des petits outils pour comprendre bien quelle a été la démarche, tout en ce que ce soyant sympathique à lire. Et c'est aussi, nous, notre règle d'or, c'est le ton qu'on donne aussi à Willow & Grove. On veut que ce soit un ton détendu. Donc, dans toutes nos communications, newsletter, sur Instagram ou sur notre site, il y aura toujours un ton un peu de l'humour aussi.
Un peu zazou.
Un peu zazou. Parce que, voilà, on veut aussi montrer que le monde de l'art, c'est pas forcément un monde snobinard, coincé, etc. Et qu'on peut faire des choses sérieuses, on peut vendre des œuvres d'art intéressantes, etc. sans se prendre au sérieux aussi. Et ça, c'est un peu notre règle d'or avec Fanny. On veut vraiment transmettre un univers, encore une fois, chaleureux et détendu, tout en faisant quelque chose de sérieux, quoi.
Sur le site, j'ai une petite question. Pourquoi vous laissez en ligne les produits qui sont vendus et vous indiquez qu'ils sont vendus? Il y a certains sites qui font ça. Pourquoi?
Bah, déjà, donc nous, non seulement on laisse les articles qui sont, enfin les articles, les œuvres, on va les appeler que par leur nom, qui sont vendus, mais en plus on laisse leur prix. Parce que il y a aussi certains sites où parfois on voit que les choses sont vendues, mais du coup les prix ont disparu. Donc nous, c'est important pour nous toujours dans une optique de transparence, c'est-à-dire de référentiel pour les gens qui puissent se rendre compte, parce que nos prix peuvent éventuellement évoluer. Et là aussi, par rapport à la façon dont on les fixe et à ce mécanisme dont on parlait tout à l'heure avec l'artiste et le feedback qu'on a des gens qui viennent, qui achètent, etc. Ça fait aussi partie de la fixation des prix. C'est vraiment le retour qu'on a des clients. Et du coup, on peut être amené, par exemple, à augmenter ou baisser les prix si on sent que, soit les augmenter si, par exemple, on a vraiment une tendance de long terme où on vend vraiment bien les œuvres d'un artiste. Alors, quand on dit augmenter, nous, vu notre fourchette de prix, on va pas, c'est pas multiplié par 10, mais je veux dire, on peut augmenter petit à petit 200 € de plus pour montrer qu'effectivement, il y a une demande qui est forte. Des gens ont soutenu vraiment ce travail dès le début. Ceux-là, on peut aussi se dire qu'ils ont fait cet effort de croire en l'artiste, donc ils ont peut-être eu le prix qui était un peu moins élevé et que du coup les suivants qui seront dans leur lignée auront la chance aussi d'acheter une œuvre de cet artiste mais du coup contribueront un petit peu plus. Enfin voilà, on essaie d'être dans un truc d'offre et de demande assez clair et du coup le fait que les prix de vente anciens soient disponibles aussi soutient ce mécanisme et cette transparence là et aussi d'expliquer du coup que cet artiste a montré aussi qu'il a du succès qui montré la réalité quoi, c'est-à-dire qu'effectivement on met pas toutes les œuvres vendues sur le site parce que on aurait beaucoup trop de fiches et puis c'est pas non plus la peine, mais on trouve ça intéressant voilà de mettre un peu en contexte l'artiste, son où il en est,
ce qu'il a fait d'autre, ce sur quoi les gens ont eu un coup de cœur aussi avant. Enfin, ça encourage aussi cette clientèle qui se dit bon, je vais acheter ça. Ça se trouve personne n'a jamais acheté cet artiste. Je suis tout seul dans mon délire. Et en fait, il peut voir qu'il y a eu 2, 3, 4, 10 œuvres qui ont déjà été vendues de cet artiste. Et ça, je pense que c'est rassurant pour lui aussi. Et voilà.
Vous avez une catégorie sur papier qui est une vraie tendance actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, donc nous, le papier, c'est vraiment une technique pour nous, un support qui a toujours été important. Enfin, quand on était chez Christie's, donc on était plutôt art impressionniste et moderne, et du coup, on faisait pas toutes les techniques sur la période, parce qu'il y avait des départements spécialisés, par exemple pour la gravure ou la photo. Mais du coup, on faisait essentiellement sculpture, œuvres sur papier et tableaux. Et c'est vrai qu'œuvres sur papier, on avait notamment une vente qui était vraiment, dédiée à ce support. Pendant le salon du dessin. Et c'est vrai que c'est il y a beaucoup d'artistes qui utilisent le papier comme une étape un peu intermédiaire, peut-être pour des travaux préparatoires, etc. Mais il y a aussi énormément d'artistes qui s'en servent vraiment comme leur support premier et unique. Et il y a une proximité, en fait, dans le papier entre l'artiste et le spectateur qui est folle. Il y a vraiment on est un peu dans l'intimité. Le papier, c'est très vivant, c'est très immédiat aussi, et du coup, on est encore plus dans le processus créatif, je dirais, avec une œuvre sur papier. Donc, il y a un côté très très intime avec ce support.
D'où vous vient cette passion pour l'art ?
Je pense qu'on a toutes les deux été déjà élevées dans un environnement assez artistique parce qu'on a toutes les deux un peu des artistes dans nos familles et qu'on a des parents qui ont été toujours intéressés par l'art et qui nous ont un peu trimballés dans les musées de toute notre enfance. Et en plus, moi, ma grand-mère était conservateur de musée, au musée des arts déco. Du coup, c'est vrai qu'elle m'a toujours initiée.
Ça s'apprend ou il faut une sensibilité ?
C'est difficile à dire parce que à la fois, enfin, je pense que toutes les deux, on a été baignées dedans, mais pas non plus tant que ça. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est sûr que nos parents nous ont énormément. On a un peu le même profil à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'était des gens qui adoraient voyager. Quand ils allaient en voyage, ils allaient voir les expos, les musées, les églises, etc. Et ils nous emmenaient effectivement. Donc c'est déjà beaucoup plus que certainement plein de gens, mais c'est pas non plus qu'on a été
traîné à Dreux tous les week-ends, toute notre enfance,
ou qu'on était fille de collectionneurs, ou qu'on avait des tableaux partout chez nous. Enfin, donc du coup ça faisait vraiment partie de notre environnement, mais de façon assez diffuse. Donc mais on l'a quand même appris quelque part. Mais après, c'est vrai que c'est Olivia a deux sœurs, moi j'ai un frère, ils ont eu la même ils ont été élevés comme nous, ils sont intéressés à un autre degré. Personne à part nous dans nos familles ne travaille dans ce secteur, donc après je pense qu'il y a aussi sa personnalité, quelque chose qui match, et après cette envie d'en savoir plus. Moi je me rappelle que j'ai eu très longtemps un espèce de complexe justement de connaissances et de culture artistique étant, je sais pas, à l'adolescence ou un peu jeune adulte. Et du coup, c'était tout à coup, j'ai eu une espèce de boulimie un peu d'avoir envie, mais je sais pas d'où ça venait, de combler ça, d'apprendre, de lire. J'ai fait des études plutôt de commerce et un peu l'école du Louvre après, mais c'était pas des vraies études d'histoire de l'art. Donc même en rentrant chez Christie's, j'étais encore dans un vrai complexe. Donc je pense qu'après, il faut aussi avoir envie, quoi. Faut aussi avoir envie. Et une fois qu'on a envie, il faut y consacrer du temps si on le souhaite. Et,
y aller, quoi.
Et donc, vous étiez collègue chez Christie's ou vous étiez copine avant?
Non, on s'est rencontrés chez Christie's au bureau de Paris. On a commencé toutes les deux, moi à Hong Kong et Fanny à Londres, puis un peu à New York. Et après, en septembre 2011, on s'est retrouvés dans le même département, donc art impressionniste et moderne. Et c'était une petite équipe de 8 personnes à peu près. Et on a travaillé vraiment 7 ans main dans la main, en faisant plusieurs postes toutes les deux, parfois les mêmes, parfois on se suivait, etc. Mais on a collaboré vraiment étroitement pendant toutes ces années, sans jamais s'engueuler, je tiens à le dire. Que dès qu'on s'associe, évidemment, tout le monde s'inquiète en disant oh, « fais attention, c'est comme un mariage », etc. Et on ne s'est toujours pas engueulé à ce jour. Et on était assez sereine en s'associant aussi, parce qu'on a... On sait comment on travaille, on sait comment on raisonne, quels sont nos caractères, etc. Et on est devenus copines et amies en travaillant chez Christie's au fur et à mesure des années. Donc ça, c'était...
Comment vous avez eu l'idée de créer Willow & Grow?
Je pense, l'idée, elle est d'abord venue... Enfin, avant l'idée, il y a eu l'envie d'autre chose. Je pense qu'on était dans deux situations différentes, mais arrivés en tout cas au bout d'un cycle chez Christie's. Et du coup, on s'est vraiment retrouvés tout à coup en se disant... En s'avouant un peu, genre, ça y est, on est au bout. Ah oui, et toi aussi, moi aussi, je suis au bout. Donc voilà, donc ça, tout à coup, il y a eu un peu cette prise de conscience qu'on était un peu à la même période, au même stade, au même moment, quoi. Et après, tout de suite, on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse un truc. Parce que on avait 30 ans à ce moment-là, on avait vachement d'énergie, on travaillait énormément, ce qu'on fait toujours, mais du coup, avec un peu cette frustration de se dire, pourquoi on est frustré à 30 ans alors qu'on est dans un métier vraiment passion? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui nous convient pas, donc faut qu'on prenne toute cette belle énergie et qu'on en fasse quelque chose. Donc
voilà. 35 ans devant nous, ouais, de travail, quoi. Donc on peut pas être fatigué et un peu frustré à 30 ans, quoi.
Non. Et c'est vrai que c'est des métiers, des maisons de vente comme ça où c'est vraiment des métiers d'expertise, donc on peut encore faire pendant toute sa carrière le même métier. Donc il y a plus beaucoup de secteurs dans lesquels c'est le cas, mais là, comme c'est vraiment des choses où il faut apprendre au fur et à mesure et l'ancienneté compte beaucoup, on pouvait s'imaginer faire ça toute notre vie. Donc finalement, non, ça nous a pas branché. Et après, du coup, très vite. En gros, on a su qu'on allait faire un truc et on s'est dit quoi. Et on a fait, et puis on a émergé un peu ce constat de ce trait d'union qui n'existait pas entre deux mondes. Tout de suite, on s'est dit qu'il fallait que notre expérience nous serve à quelque chose. Qu'est-ce qui nous manquait justement chez Christie's? C'était le vrai contact avec les artistes. Le vrai contact avec
les
gens normaux, avec les clients. Finalement, le contact humain et artistique qui, bizarrement, venait à manquer, en fait, dans une grosse boîte comme Christie's.
Et qu'est-ce qu'ils en disent, Christie's, de votre reconversion?
Que du bien,
si on espère. Non, ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont... Bon, évidemment, on est partis toutes les deux un peu en même temps, donc sur le moment, c'était un petit manque dans une grande équipe, dans une équipe de 10 personnes, donc c'était une étape à passer, mais c'est vrai que rapidement, ils ont été vraiment supportifs et positifs. Et on a beaucoup de collègues qui viennent nous voir, surtout dans les pop-up. Même ici, on a notre ancien président qui est venu dans pratiquement tous les pop-up et qui nous a acheté des choses. On a le DG qui est venu il y a 3 mois et qui a acheté quelque chose. Donc c'est
vous
vrai
n'êtes
que c'est...
pas en mauvais termes. C'est pas un pied de nez que vous leur faites.
Non, pas du tout. C'est quand même des univers assez spéciaux. Donc quand vous rentrez chez Christie's, déjà, on travaille énormément. Donc on est souvent sur zone. On est des petites équipes. Donc à Paris, il y a 100 personnes maximum. Donc du coup, on se connaît quand même bien. Nous, notre équipe de chez Christie's, c'est toujours des super copains qu'on voit toujours. Enfin, on est soudés. On travaille la nuit, le jour. On porte des trucs. On fait des accrochages. On fait des catalogues. Enfin, on fait un peu beaucoup de choses ensemble. Donc c'est déjà des liens qui sont très forts, et c'est des vraies bandes de copains qu'on se fait, je pense, à vie. Et en plus, on n'est pas parti pour la concurrence, on est parti vraiment pour faire autre chose. Il n'y a pas tellement d'amertume à avoir, et on est toujours en super bons termes, et on va toujours voir leurs expos, et on suit les catalogues, on suit les ventes. Tout est plutôt positif.
Et entre vous, est-ce que vous avez une répartition des rôles précise ou pas forcément?
Pas vraiment. En fait, ça nous a un peu peur au début parce qu'on a donc des profils d'études assez similaires et une expérience professionnelle aussi quasi identique. Donc, comme beaucoup de gens nous disaient, il faut, quand on est associé, que chacun ait son, un peu sa zone, bien se répartir, sinon, il faut être absolument complémentaire, etc. Et donc, ça nous a un peu peur parce qu'on disait, mais en fait, comment se rendre complémentaire alors qu'on est un peu finalement proche. Et finalement, de fait, là, ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé la galerie. Et en fait, on fait quand même beaucoup les choses ensemble. Déjà, on a quand même axé beaucoup de notre système, enfin, toute notre communication et finalement comment on fonctionne réellement dans la sélection, tout ça, sur notre binôme. Parce qu'en fait, tout simplement, on aime travailler ensemble. Donc, et c'est comme ça qu'on porte le truc. Donc, du coup, ça, de fait, il y a énormément de choses qu'on doit faire ensemble, parler aux artistes, les trouver, faire les expos, etc. Donc, finalement, il n'y a pas tellement de répartition. Après, naturellement, on peut pas non plus faire tout à 4 mains et ça n'a pas de sens. Donc, il y a des choses qu'on va se répartir, mais on va se diviser des tâches. Mais les mêmes tâches, on va les diviser. On va pas se répartir. Une va s'occuper de tout le marketing et l'autre de toutes les expos. Enfin, c'est vraiment dans la mesure du possible, on fait tout ensemble.
Et justement, quelle est la clé du succès de votre duo? Vous disiez que ça fait 7 ans que vous n'êtes pas disputés. C'est vrai que d'extérieur, ça peut paraître un peu fou de pas être en conflit jamais avec son associé. Comment vous gérez le quotidien?
Alors, je pense déjà que Fanny a très bon caractère. Non, mais c'est vrai qu'elle a une grande force, je trouve. Je dis toujours que c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'elle sait exactement ce qu'elle veut et elle a ses idées, etc. Mais il y a toujours, même avec moi qui suis son amie, une grande diplomatie, mais un sens de l'autre qui est une empathie qui est assez impressionnante pour moi, en tout cas. Et donc, je pense que moi, en plus, je fonctionne de manière assez entière. Et c'est vrai que quand, face à ça, je pense que je suis très réceptive et en confiance. Et donc, du coup, ça permet de travailler de manière très sereine, quoi. Et aussi, parce qu'on partage aussi beaucoup de choses au niveau perso, je pense.
Non, et je pense que je pense aussi que Olive, par exemple, elle a tendance à dire qu'elle a un très mauvais caractère, mais moi je n'ai jamais vu ce mauvais caractère. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est un peu difficile, du coup, de dire la clé du succès. On ne sait pas ce que c'est, parce que c'est un peu comme, on passe notre temps à dire qu'on est mariés, mais c'est vrai que quelque part, on passe tellement de temps ensemble et parfois, on ne sait pas pourquoi les couples marchent non plus, quoi. Il y a un truc qui fonctionne. Après, c'est sûr que, bon, et aussi, comme dans les vrais couples, il y a un truc de communication où je pense qu'effectivement, on est quand même toutes les deux, franche, donc on va jamais avoir un truc sur le cœur et se tordre le bide pendant 3 semaines sans en parler à l'autre. Enfin, je pense que ça vient naturellement et du coup, on communique tout le temps. Déjà, on se marre beaucoup aussi et ça change tout. Enfin, et c'est vrai que du coup, il y a jamais de tension. Enfin, et bon, donc je pense que c'est beaucoup de chance. Voilà, on a vraiment de la chance de s'être trouvés et pourvu que ça dure.
Toute la vie. Vous passez du temps aussi ensemble le week-end? Pas forcément.
Non, vous non. C'est ça, pas ça. Non, pas trop le week-end. Et alors, bizarrement, on boit peu de vin ensemble. Non, parce que quelqu'un nous disait l'autre jour, ah oui, vous devez vous faire des super apéros de travail et tout. Et en fait, on est très raisonnables ensemble, alors qu'on n'est pas les dernières hors du boulot. Mais du coup, en fait, on a quand même pas mal de potes en commun, notamment des gens de chez Christie's, où on peut avoir, enfin voilà, des occasions de se voir en dehors du travail. Mais finalement, on a aussi, et ça, c'est aussi une force, je pense, du fait qu'on n'ait pas été amis antérieurement, c'est qu'on n'a pas non plus tout notre groupe qui est complètement collé, où du coup, ça pourrait nous mettre dans des situations où finalement, on n'aurait aucune zone personnelle, on va dire. Et ça, voilà. Du coup, ça fait que naturellement, on se voit moins le week-end aussi parce qu'on a d'autres amis, des familles, etc. Donc, mais ça nous empêche pas quand même de se faire des trucs à l'occasion. Mais c'est vrai que c'est plus rare.
Je vous ai pas demandé d'où vient ce nom, Willow & Grove.
Alors, c'était un vaste sujet. Quand on a commencé la galerie, évidemment, la question du nom se pose assez facilement. Enfin, Et on était en galère totale. On voulait pas avoir galerie Fanny Olivien, galerie Soleil Fayette. On voulait pas faire un jeu de mots pourri avec l'art. Enfin, on était un peu en pleine recherche. Donc, on cherchait. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà déposées. En plus, quand on avait des supers idées, tout d'un coup, on était là. Oh, ça y est, c'est ça. Et pof, c'était déposé par d'autres marques, etc. Un resto, on sait pas. Donc, du coup, ça a été assez compliqué. Et un jour, Fanny, avec son cerveau extraordinaire, est arrivée avec une idée. Elle s'est attention, c'est capillotracté, mais ça vaut le détour. En tout cas, on s'ennuie pas chez nous. C'est donc, on s'est rendu compte que nos deux noms de famille venaient de noms d'arbres. C'est-à-dire que Soleil, ça vient du saule, et moi Fayette, ça vient de Fagus, le hêtre. Et donc du coup, accroche-toi à ton micro. Donc on s'est dit, ah, un point commun. Et en anglais, le saule, c'est willow, mais W-I-2-L-O-W. Et en revanche, le hêtre, c'est beech, donc moins sexy. Donc, on s'est dit beech grove, en fait, c'est des allées de hêtre. Donc, willow and grove. Et en revanche, il y avait déjà une marque qui s'appelait willow and grove, avec l'orthographe complète de willow, qui était une marque de goodies de mariage, genre au fin fond du Minnesota ou je sais pas quoi. Du coup, on a simplifié l'écriture et voilà. Donc et c'est ainsi. Et on l'a présenté à ma sœur qui travaille chez Havas. Et donc du coup on lui a dit bon.
Ça avait été une barre de fer avec tout ce qu'on lui avait soumis avant, en disant ça c'est nul. Donc
ça c'est le nouveau Cogent. Ça c'est une boutique de fringues pourries. Enfin.
Et on tremblait à chaque fois qu'on lui présentait un truc. Et là.
Et là
quand même le truc, on s'est dit bon, on lui présente, on espère qu'elle va laisser passer. Et la lueur d'espoir.
Elle a dit, c'est pas mal. Donc, on a pris, on a gardé, on a déposé. Alors après, ça y est, il y a eu beaucoup de variantes dans le sens où les gens, enfin, déjà, nos parents, etc., ils étaient là, mais les gens vont rien comprendre, c'est en anglais. Willow and Grove, Willy and Grove, Willow. Enfin, ils arrivaient pas, quoi. Mais bon, on s'est dit, au moins, ça change. Si un jour on est international, on pourra être prononcé par tout le monde et puis voilà, et puis ça nous ressemblait et on a eu la chance d'avoir une super agence graphique qui s'appelle Big Cheese qui nous a fait un logo magnifique et le petit WG en plus très beau aussi, donc on était assez contente de tout ça, quoi.
Alors là, si les auditeurs écoutent et sont un peu nuls en art, nuls entre guillemets, je m'inclus dedans, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sensibilisé à ça? Il faut lire des livres, faut faire des expos, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ben, je pense que ça dépend surtout de ce qui nous intéresse. En fait, faut faire ce qui nous plaît. Je sais pas, c'est vrai que ça peut être aller à des expos, ça peut être même regarder des films. Il y a plein de films géniaux qui ont été faits sur plein d'artistes. Il y a un super documentaire tout de suite ça semble très chiant, mais c'est très bien. C'est une sorte de ça s'appelle Les Aventuriers de l'Art Moderne. C'était une série en fait de docu animé, on va dire. Donc c'est comme une bande dessinée animée. Je crois que c'est 6 épisodes et ça retrace toute l'histoire de l'art moderne, mais du coup plutôt dans les anecdotes hyper ludiques. C'est hyper bien fait. C'est que les histoires de vie en fait des artistes. Et ça c'est, enfin en tout cas, je sais que ça a été une façon pour moi d'apprendre beaucoup. C'était de vraiment en fait se dire les artistes c'est des personnes comme vous et moi. C'est juste qu'ils ont un talent exceptionnel que malheureusement je n'ai pas. Mais du coup ils ont toujours eu des histoires rocambolesques, des histoires d'amour qui ont aussi pu déclencher des séries. Enfin quand Picasso entre autres. Énormément de sa création découle de ces histoires d'amour incroyables. Enfin, et du coup, ce documentaire, en tout cas, retrace vraiment la vie et la création par le prisme un peu de ces expériences peut-être presque anecdotiques, mais qui en fait font les personnes, quoi. Et ça, c'est un super truc très ludique, très agréable. Mais après, voilà, il y a plein de façons venir nous voir, nous parler. Ça marche aussi.
Il y a aussi un compte Insta qu'on adore, qui est La Minute Culture et qui est génial. C'est vraiment un focus sur un artiste généralement. Et c'est juste des stories. Mais donc, du coup, il y a plein de stories qui se suivent. Et c'est à mourir de rire déjà, parce que elle arrive à détourner des tableaux en mettant des petites bulles, etc., tout en étant hyper didactique, enfin vraiment des sources, enfin c'est très renseigné comme info. Donc du coup, on apprend la vie de l'artiste, son courant, pourquoi il a fait ça, etc., mais que sous le trait de l'humour. Et ça, donc du coup, c'est une manière hyper ludique d'apprendre énormément de choses et de rire énormément.
Et là, Fanny, on est dans ton ancien chez toi, c'est ça? C'est ce que vous disiez au début. Est-ce que ça t'a pas fait bizarre de commencer à travailler dans un lieu dans lequel tu as habité?
Bah, ça m'a pas vraiment fait bizarrement. Mais bon, peut-être parce qu'il y a eu cette transition aussi où pendant un an, enfin, du coup, ça aurait dû être encore plus bizarre, tu me diras, mais pendant un an, ça s'est fait un peu par étapes. Et en fait, finalement, je pense que le fait que c'est vraiment été un lieu personnel, où en fait Olivia est venue travailler assez rapidement et donc elle se l'est aussi appropriée comme son lieu. Enfin, c'est maintenant un lieu où on est vraiment chez nous. Donc en fait, ce côté chaleureux, c'est pas une maison témoin quoi. Et je pense que ça donne une force aussi, une énergie particulière à ce lieu. Et moi du coup, j'ai vachement de plaisir à y être et aussi à voir que les gens s'y sentent bien et je pense que ça aide. Donc finalement, non, c'est un peu une autre vie pour cet endroit.
Et est-ce que chez toi, ça ressemble un peu au WeLoft?
Ça ressemble pas du tout au WeLoft, non, parce que c'est complètement différent. Maintenant, je suis dans un appartement, dans un très très vieil immeuble, donc c'est complètement diamétralement opposé. Et du coup, bon, y a plein de choses qui sont un peu dans le style, parce que bah déjà, il y a en fait les premiers artistes avec lesquels on a commencé à travailler, c'est aussi des gens qu'on avait achetés, Olivia et moi, pour nos propres apparts. Donc déjà, il y a des œuvres qui se retrouvent et des artistes qui se retrouvent et qu'on complète avec de nouveaux artistes aussi. Donc ça, il y a clairement des points communs. Mais après, c'est un style complètement différent et c'est ça qui est marrant aussi, c'est de changer.
Et c'est quel style alors? Comment tu définirais ta déco chez toi?
Assez éclectique. Moi, et ça aussi, c'est un truc qu'on partage avec Olive. On aime bien les mélanges en tout genre. Donc, faut faire attention de pas faire n'importe quoi non plus. Mais l'idée, c'est un peu de se dire que le coup de cœur qu'on peut avoir pour des choses très différentes va faire le trait d'union entre les choses. Donc, du coup, il y a pas mal de vintage. Il y a assez peu de choses contemporaines quand même en termes de mobilier. Il y a énormément de kilim. Parce que j'ai une sorte de fixette avec mon mari sur le kilim. Et voilà, et c'est, il y a beaucoup de couleurs aussi, c'est comme l'appartement, il y a du parquet et des poutres, il y a un côté assez sombre, même si c'est cosy aussi, mais du coup, nous, on aime bien les choses de très colorées, donc c'est éclectique et cosy et assez chargé. J'aime bien l'accumulation.
Voilà. Et toi, Olivia?
Et moi, c'est vrai qu'il est assez moderne dans le sens où c'est des anciennes chambres de bonne en 7e étage qui ont été cassées et rassemblées. Donc du coup, c'est pas très haut plafond. Il y a des fenêtres assez industrielles, etc. Mais après, c'est assez moderne, je pense quand même comme déco. Après, on l'a fait il y a 5 ans. Donc c'est assez moderne dans sa structure. Dans les matériaux, etc. Mais après, c'est vrai que c'est des... moi, j'aime beaucoup apporter des choses de voyage, etc. Donc, c'est un mélange assez improbable d'une couverture péruvienne que j'ai rajoutée, que j'ai ramenée en 2009, des cadeaux d'Asie, des choses qu'on a chinées avec mon mari au puce, j'ai plein de choses aussi, Willow & Grove, de nos artistes, des choses très variées.
Si vous deviez organiser un dîner ici au WeLoft, avec quel artiste vous inviteriez?
Tous nos artistes.
Ouais. qui vous voulez, on va dire 6 artistes.
6? Oh
4.
4,
ça fera un dîner à 6.
Plus tu réduis, plus...
Ah,
réduis,
d'accord. En fait. Alors, 6.
Non,
mais quelques artistes avec qui vous aimeriez bien dîner, qui soient encore en vie ou pas. On fait un ouais. Dîner un peu dingue.
Ah oui, le dîner dingue. Non, des morts.
Le dîner des morts,
oui, voilà.
moi, ma passion, c'est Picasso. Donc, du coup, oui, évidemment, lui, il faudrait qu'il soit là. Avec la femme qui veut, mais il faudrait qu'il soit là. Passion.
J'aimerais bien une femme artiste. Parce qu'en fait, dans l'histoire de l'art, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu à l'histoire, on va dire. Donc, il y avait certainement plus d'artistes femmes que celles dont on entend parler aujourd'hui, mais il y en a assez peu dans les livres, en tout cas. Donc, peut-être Barbara Epworth. Elle était en plus femme d'artiste. C'était la femme de Ben Nicholson, je crois. Et du coup, je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi le retour de qu'est-ce que c'était qu'être une femme artiste dans un milieu très très masculin. Ce serait intéressant pour notre dîner.
On pourrait mélanger les époques.
Ouais, bah grave. On pourrait prendre Léonard aussi,
ouais.
Tant qu'on y est. Il pourrait nous apprendre 2-3 trucs. Qui d'autre ?
C'est dur, hein, comme ça, de choisir parmi tant.
Bah, peut-être Van Gogh aussi. On va se marrer.
Fou dangereux.
Fou dangereux. Il faudrait boire un peu d'absinthe et se couper les oreilles. Très marrant.
C'est ça.
Et pour finir, Charlotte Perriand, considérée comme une artiste.
Ouais.
Charlotte Perriand, elle est plus designer, mais elle a quand même...
Niki de Saint-Phal, à mon avis, tu marres bien aussi.
Ouais, ça peut être pas mal.
Bon,
bon,
ça va.
Ça va, c'est bien.
Ça fait 5-6. Moi, ça me va.
Tu lances les invitations. Tu nous tiens au courant pour la date.
Bon, on va terminer avec les questions à Wattmill. Alors, question à 7 euros, le prix d'un livre de poche. Dostoïevski a dit que l'art sauvera le monde. Qu'en pensez-vous ?
Ah, mais c'est clair. Enfin, c'est clair. Je ne sais pas si l'art sauvera le monde, mais c'est vrai que l'art, ça traverse les âges. Il y a toujours de l'art dans toutes les civilisations depuis tout le temps. Et c'est une des choses belles qui restent du passage de l'homme sur la planète, quoi.
Et surtout, moi, je pense que c'est ce qui fait qu'on est humain, en fait. C'est ce qui nous différencie de la nature, de l'animal. Donc, c'est si jamais on doit survivre, en tout cas que l'humanité doit survivre, c'est par cette essence-là, je dirais.
Donc, oui, sauvera le monde peut-être pas, mais c'est sûr que c'est une. C'est une des choses de l'humain qui a gardé. Donc, elle sauvera peut-être l'humain des autres aspects de...
Elle nous survivra tous, ouais. Surtout.
On espère.
Question à 29 euros, beaucoup moins intelligente. Hein, le prix d'un abonnement à Numérica pour avoir la télé. Donc, nous sommes au We Loft. Donc, ça me fait penser à une émission de télé-réalité, genre le Loft. Combien de temps vous pourriez rester enfermé ici ?
Avec des caméras
Ouais, avec des caméras. Sans caméra.
Moi, je suis assez casanière, donc je pense que je peux durer pas mal.
Ouais.
Si je me fais livrer des trucs,
ouais.
Qu'on a la télé, qu'on a à boire,
si on a
franchement.
2-3 paquets de cigarettes pour les urgences. Et que ça nous permet de terminer notre compta 2019.
Oui, surtout.
Donc,
je dirais 10 jours. Je pense que je suis capable de rester 10 jours sans sortir.
Ok, bon, bah vas-y, banco, 10 jours.
On aura fini la compta.
C'est ça.
Question à 1 euro, le prix d'une participation qu'on peut mettre sur Wikipédia, j'ai découvert ça. Il y a une classification des arts depuis l'Antiquité qui s'est affinée avec les siècles et les années. Donc en 2020, on compte 10 arts. Est-ce que vous les connaissez, ces arts ?
Tu veux dire genre le cinéma,
exactement,
la photographie ?
Le premier art, le deuxième art.
Ouais.
Donc, alors, le premier art, c'est l'architecture.
Ouais.
Le deuxième art, c'est la sculpture. Le troisième art, c'est les arts visuels, qui regroupent la peinture et le dessin. Le quatrième art, c'est la musique. Le cinquième art, c'est la littérature, qui regroupe la poésie, les romans, tout ce qui se rattache à l'écriture. Le sixième art, c'est les arts de la scène, qui donc la danse, le théâtre, le mime, le cirque. Le septième art, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est le cinéma. Le huitième art, c'est les arts médiatiques, donc la radio, la télé, la photographie, les podcasts. Le neuvième art, c'est la bande dessinée. Et ma question, quel est le dixième art ? Est-ce que vous savez ? Qui est improbable. Donc t'ai dit, c'est une façon de faire connaître. Oui.
Attends, un
le dixième art. Indice geek.
Jeu vidéo.
Ouais.
Mais en même temps, ça m'étonne pas.
Alors, l'explication, c'est que c'est en novembre 2012 que le MoMA, c'est pour ça le lien avec l'art, a décidé d'intégrer des 14 jeux vidéo à sa collection d'œuvres d'art. Et la Cour suprême des États-Unis a du coup reconnu officiellement le jeu vidéo comme une art. Et en France, c'est en 2006 que le ministère de la Culture a reconnu le jeu vidéo comme une forme d'expression artistique.
Bah maintenant, les univers qu'ils arrivent à créer sont tellement dingues visuellement. Que ça m'étonne pas, quoi. C'est
qui vraiment... inspire d'ailleurs le cinéma, que tu retrouves parfois, oui, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo.
Ouais, il y a beaucoup, même dans les, bah, dans les dessins animés, les mangas, enfin, ça se rejoint beaucoup, et c'est une telle créativité, enfin, c'est des designers de ouf, quoi, qui sont chez Ubisoft et autres, et qui sont des superstars du jeu vidéo, quoi.
L'art est partout.
Ouais, voilà. Ben, merci beaucoup pour cet échange.
Merci à toi.
Merci, Hortense.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Luluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.